Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme de cette troisième émission du retour en audio de Silence on Joue, en audio seulement, audio only, grâce à nos amis des croissants. Au programme de cette émission, le Xbox Game Pass, le Nintendo Labo, évidemment. On va parler un tout petit peu de la nouvelle map qui est en test, Savage, de PlayerUnknown's Battleground. On parlera évidemment, on n'a pas le choix et on le fera avec plaisir, de God of War. Et on finira sur un petit jeu, je crois qu'on l'avait annoncé la dernière fois, mais on n'avait pas eu le temps.
On n'a pas eu le temps.
Petit jeu pas tout récent, mais dont il faut parler. En tout cas, c'est l'avis de Corentin, Doki Doki Littérature Club. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des croissants, et qui nous accueille, hein, je le répète. Bonjour. Bonjour Corentin.
Bonjour Erwan Cario de Libération aux croissants.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va très bien. On va commencer avec toi Patrick.
Oui,
tu vas
oui.
nous parler d'id Software.
Oui, alors on a des infos, on a eu une date de sortie pour Wolfenstein, le dernier New Colossus qui était sorti sur les consoles de dernière génération il y a quelques mois maintenant, qui arrive sur Switch. On a une date de sortie fixée au 29 juin. Alors, ça peut paraître anecdotique comme ça, hein, une adaptation.
Non,
parce que c'est une petite cartouche qu'on va regarder de près, parce que c'est une adaptation d'un jeu qui était quand même assez costaud sur les PS4, Xbox et PC, qui avait une réalisation assez solide, que j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'avais beaucoup aimé ce Wolfenstein complètement décalé, complètement pulp dans sa représentation, dans son visuel, dans ses thématiques complètement exagérées. Un jeu que j'avais beaucoup aimé et puis qui va donc arriver sur la Switch. On sait que c'est un challenge de porter un titre de cette envergure sur la console portable hybride de Nintendo. C'est le studio Panic Button qui est le studio texan qui est aux commandes de ce portage, et c'est eux qui avaient déjà travaillé sur Doom,
qui avait fait un très bon travail.
Alors
très,
Doom c'était hallucinant. Il faut se rappeler que Doom, le Doom 2016, qui est grand jeu s'il en est, avait été vraiment porté avec ils avaient bien senti les qualités et faiblesses de la console, ils avaient vraiment joué avec. D'ailleurs le jeu avait été mis à jour il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Vraiment un portage très soigné. Il n'était pas dénué de défauts. Il y avait
FPS, un côté
avec parfois un côté flou, mais ils avaient réussi à conserver la pêche du jeu, à adapter l'expérience selon qu'on jouait en portable ou en docké sur l'écran, sur son téléviseur. Donc voilà, c'est eux qui travaillent sur Wolfenstein, donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, parce que c'est un jeu qui mérite vraiment de s'y replonger. Ça va peut-être être l'occasion de le relancer, et encore une fois, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. On reste dans l'univers Doom avec l'annonce de la sortie de la bande originale du Doom 2016. Alors rappelez-vous la BO de Doom. Moi Doom, je respecte hautement cette version de 2016, on en a longtemps parlé ici, on en parle régulièrement, et c'est vrai que c'est un jeu qui avait beaucoup de trouvailles de gameplay, qui a vraiment réussi à porter le mythe Doom, à le réactualiser et à vraiment apporter des gimmicks de gameplay intéressants, et puis qu'il y avait une bande originale qui était vraiment dans la philosophie Doom, du Doom original, avec
tout en subtilité,
avec une ambiance bien grasse, bien métal comme il faut. Et en tout cas donc on a l'annonce de la sortie cet été de la bande originale de ce Doom 2016. Alors il y a plein d'éditions différentes, double CD, double vinyle, une édition limitée 4 vinyles, voire ultime avec des vinyles, des CD, tout ce qu'il faut. Et en tout cas, on va suivre ça de près. Moi, je pense que je vais sûrement prendre la version CD, parce que, encore une fois, c'est l'univers Doom. Moi, j'adore l'univers Doom.
Tu n'as plus de place chez toi.
Les CD, c'est tout petit. Tu peux les cacher derrière un truc. Ça passe.
Est-ce qu'ils ont annoncé un amiibo du CD de la BO de Doom?
Un amiibo Doom, ce serait inespéré. Et j'avais noté aussi Sonic Mania, donc 1 million quand même d'exemplaires. On avait parlé de Sonic Trackmania il y a quelques temps aussi.
Le plus là qui va arriver.
Réservé. Et voilà, le plus qui arrive, je crois, mi-juillet avec donc c'est une version réactualisée hein, du Mania avec des nouveaux modes, nouveaux persos.
Nouveau City Friends.
Et une version physique avec un artbook et des petits trucs sympas dedans. Donc voilà.
Corentin, on reste sur la Switch.
Ouais, la pauvre Switch hein, qui s'est fait un petit peu, on va dire, à coup par une équipe qui s'appelle Fail Overflow. Et en fait, c'est apparemment une vulnérabilité hardware qui est déjà connue hein, de la part donc de cette équipe-là, mais aussi de Nintendo, Nvidia et Google depuis plusieurs semaines. Mm-hmm. Ils ont dit bon, c'est toujours est-ce qu'on révèle, est-ce qu'on révèle pas la faille de sécurité. C'est souvent la question quand il s'agit de donner des noms à des failles. On le voit souvent dans le domaine d'internet. Voilà, est-ce qu'on révèle Meltdown, est-ce qu'on révèle Spectre. Là, Fail Overflow a décidé de révéler donc cette grosse faille qu'ils ont appelée. Alors c'est Fusée Glacée, je crois que c'est un truc comme ça, c'est bizarre comme nom. Bon, très bien, donnons un nom bizarre. Donc l'idée, c'est qu'ils ont réussi à faire tourner Linux sur la console, ce qui prouve qu'ils font un peu ce qu'ils veulent maintenant avec la machine. Et le problème, c'est que c'est une faille qui est située au niveau du processeur, qui est un donc Tegra X1, donc de Nvidia en l'occurrence, qui est une puce spécialement faite pour normalement les machines portables. Et le problème, c'est que c'est dans la boot ROM, donc c'est le petit morceau de code hein, qu'il y a à l'intérieur même de la puce et qui permet, c'est la première chose que la machine va chercher quand elle s'allume. Et donc
À moins de
changer toutes les switches chez tout le monde, compliqué de corriger cette vulnérabilité. Donc évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça ouvre la voie au homebrew. Hein, c'est souvent ce qui est mis en avant par les équipes de hackers. Non mais attendez les gars, nous c'est pas pour le piratage, nous on est des gentils white hat, nous on
c'est pour le geste,
du
Greyhound,
c'est pour la beauté du geste, c'est pour le homebrew. Moi j'ai juste envie d'écouter mes MP3 sur ma switch. Oui, bref, du coup non, ça risque quand même de ouvrir la voie donc aux émulations et au piratage de jeux Switch évidemment hein. C'était déjà un problème qu'avait rencontré Nintendo sur d'autres consoles. On peut penser principalement à la DS et la Wii c'était des consoles trouées comme du gruyère où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. La DS, surtout la DS, moi,
en général c'est le succès, le carton d'une console attise aussi le phénomène. Voilà,
c'est ça, c'est que à mon sens Nintendo devrait pas se frotter les mains, évidemment, c'est jamais une bonne nouvelle, il faut l'expliquer aux développeurs. Faut pondérer cette mauvaise nouvelle, d'autant que bon, a priori, il y aura certainement une mise à jour hardware des prochaines Switch qui vont sortir des usines. Le plus gros souci pour Nintendo, ça va surtout être, on va dire, la sécurité, ou en tout cas, comment conserver un environnement en ligne et de jeu, on va dire, honnête, enfin, de fair play,
safe,
en fait. Comment faire pour pas qu'il y ait des gros tricheurs sur Splatoon 2 ou sur Mario Kart.
Qui modifient leur bécane.
Exactement.
Tu peux le vérifier quand tu te connectes en ligne, réseau, j'imagine que...
Ça va leur demander beaucoup de travail côté serveur, parce qu'il n'y a que là qu'ils peuvent agir.
Checker que la console est viable.
Voilà. Ils doivent vérifier systématiquement les données de chaque joueur. Tiens, il s'est téléporté, c'est pas normal. Tiens, il a une puissance d'attaque trop forte par rapport au jeu. Donc bon, ça va être un challenge pour Nintendo.
Ils peuvent pas scanner à distance je suis pas spécialiste.
C'est certainement possible. En tout cas, c'est pas le point fort de Nintendo,
c'est clair.
Il suffit de regarder à quelle était la gueule des matchs Splatoon premier du nom sur Wii U vers la fin. C'était n'importe quoi, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et pareil pour Mario Kart. Donc on va voir, j'espère que Nintendo a fait de très gros progrès sur la scène de jeux multijoueurs ces dernières années. De toute façon c'était nécessaire parce qu'il fallait
En ligne, ils ont découvert l'interface en ligne.
C'est
un peu après tout le monde, mais
j'espère qu'ils se seront un petit peu blindés à ce niveau-là.
Moi j'ai juste aussi une remarque quand même, parce qu'on parle beaucoup effectivement de ce hack et ce qui va amener c'est le piratage, on en a tous conscience. Et il faut quand même pas oublier que aussi le hack c'est la reprise de contrôle de son propre matériel qu'on a acheté avec ses petits sous. Et
oh
que...
là là, l'autre libris barbu.
Qui peut en découler et qui en a découlé des choses intéressantes par le passé. Hein. On se rappelle sur la Xbox première du nom des choses comme XBMC qui a été un des lecteurs multimédia les plus terribles qui avait 5 ou 10 ans d'avance sur tout le monde et tout ça. Donc Il y a aussi des choses positives.
C'est quand même une vision utopiste. Je suis d'accord avec toi. C'est une belle vision.
Non, c'est pas une vision utopiste. C'est qu'il peut, à partir du moment où tu redonnes aussi le contrôle d'un matériel, parce qu'il faut bien voir que les consoles de jeux vidéo sont des choses hyper verrouillées, fermées et tout ça. Et il y a des débats légaux qui sont là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de verrouiller à ce point un matériel acheté et propriété du consommateur? Bon. Ça pose d'autres problèmes. Après, moi, c'est pas forcément... Oui, il y a du piratage. On sait aussi depuis beaucoup de temps que le piratage n'est pas la première chose qui nuit à l'industrie. C'est pas ce genre de choses.
Pour la DS, ça... En fait, le vrai problème... Il y a des réalités de marché. C'est-à-dire que le vrai problème, ça vient surtout pour les petits jeux et les petits développeurs. Pas forcément Nintendo. Nintendo n'aura pas un gros impact, je pense, sur ses ventes. Parce que de toute façon, ce qu'ils vont perdre en jeu, ils vont récupérer en Switch. Parce que si jamais la Switch est massivement piratée, les gens vont se dire je vais prendre la Switch puisque je peux avoir tous les jeux gratuitement. Le problème, c'est sur l'époque de la DS, c'est que c'était surtout les petits développeurs et les éditeurs tiers qui se faisaient pirater les premiers parce que c'est les jeux qu'on n'achetait pas.
Bien sûr.
Ce qui a emmené le crack de la machine.
Je dis pas que c'est complètement inoffensif, mais je dis qu'il n'y a pas que du négatif.
C'est quand même une boîte de Pandore qui s'ouvre et qui peut être dangereuse même pour la plateforme.
Après, je suis d'accord avec Arwan que souvent les avancées proviennent des transgressions et qu'en l'occurrence le hacking naît et grandit dans cette culture-là et a fait de belles découvertes et de belles innovations grâce à cette culture-là. Je pense qu'il faut trouver un moyen de marier un petit peu transgression et réalité économique.
Je te laisse le mot de la fin.
Middle ground.
Le com des coms d'il y a deux semaines, la semaine dernière, c'était les vacances. On va commencer avec Jérémy Israël à propos de Fortnite. C'est vraiment un truc de fou, tellement représentatif de notre époque, même si je sais que je n'y jouerai pas. Je me tape des extraits sur YouTube, c'est un gameplay vraiment addictif. On ne peut pas prétendre comprendre cette génération de jeux vidéo sans s'y intéresser. C'est pour ça qu'on s'est senti quelque peu contraint, quelques mois après la sortie, de l'aborder dans Silence on joue. Mika Mused qui dit j'ai fait un gros commentaire, j'ai tout perdu. Donc en résumé, voilà, oui, ça arrive.
C'est les hackers encore.
C'est ça. Sur Fortnite, j'ai 41 ans, génération 80 et tout le bazar. Pas trop jeu multi, plutôt jeu solo et rétro. Mais Fortnite m'a pris de court, tout d'abord en regardant quelques streamers français, puis des US et en l'essayant moi-même. Alors, il a quelques remarques, Corentin. On peut gagner même en ne tuant personne et c'était encore plus drôle et gratifiant.
Avec la zone. Je pense. PUBG. Bon, je sais pas. Peut-être en faisant tomber quelqu'un en lui cassant sa structure, peut-être. Je sais pas. Dans PUBG, techniquement, tu peux le faire aussi. Il y a des mecs, d'ailleurs, ils se font des défis, genre je vais tuer personne. Ils attendent juste que quelqu'un tombe ou que quelqu'un se fasse écraser par sa propre voiture. Ça arrive.
C'est très excitant comme.
Et il a une petite remarque sur « Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?» qui m'a fait marrer. Mais je m'étais fait la même remarque aussi. Il va falloir ajouter une autre rubrique juste après celle-ci, intitulée « Et quand vous ne regardez pas Netflix, vous faites quoi ?» Voilà. Bon, après, ouvrez-vous un peu au ciné, aux jeux vidéo. Il y a d'autres choses. Genre un resto, un voyage, une BD ou une expérience différente. On avait eu le droit, et c'est vrai, c'était un grand souvenir à Maria Kalash qui nous avait parlé
d'une soupe, il nous a fait
une recette de soupe. C'est vrai qu'on pourrait essayer ce genre de choses.
En ce moment,
ma vie se résume à écouter des podcasts, regarder Netflix et jouer à des jeux vidéo quand je bosse pas.
Parle-nous de podcasts.
Ok. Écoutez, je parlerai d'un podcast après cette série Netflix de fin d'émission dont je vais vous parler parce que je trouve que c'est important.
Et enfin, Alan San qui ne comprend pas à qui ça peut intéresser PC Building Simulator. Il y a des gens pour acheter ça et encore sa version soft. Il avait demandé à ses deux collègues qui étaient techniciens en informatique. On voit bien qu'ils ont rien à foutre, comme si c'était intéressant de passer la moitié de sa journée à trouver pourquoi un ordi ralenti. De mon côté, c'est un peu pareil. Je n'ai jamais compris les jeux de simulation de travail comme Euro Truck, Farm Simulator, Train Simulator. Il n'y a rien d'impressionnant dans ces professions. Et en plus, ils cherchent vraiment de la main d'œuvre. Si c'est la passion de quelqu'un, je l'invite plutôt à y aller pour de vrai. Là où la simulation de métier devient pour moi intéressante, c'est quand on nous propose des métiers extrêmement extrêmement rare et quasi impossible à avoir, comme Football Manager, les simulateurs d'avion ou les simulateurs de décollage et d'atterrissage de fusée. Oui, c'est vrai que Football Manager, c'est un peu un simulateur de taf aussi, mais...
Oui, mais après, est-ce que tout jeu n'est pas finalement une glorification de la tâche? Enfin, on peut aller loin dans des débats philosophiques comme ça.
Rappelez-vous chez nous.
Bon, on va faire sauter le programme, on va parler de ça.
Mais il y a des bons articles à lire à ce niveau-là. Je me demande si Corentin Lamy n'a pas écrit quelque chose là-dessus dans Le Monde d'ailleurs, mais oui, il y a finalement, est-ce que jouer n'est pas travailler, mais en déguisé, quoi. Enfin, voilà.
Ça dépend du jeu aussi. Ça dépend du jeu. Des gameplays.
Quand vous jouez à SimCity, vous faites de la gestion aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais.
J'interromps tout de suite cette discussion de peur qu'elle ne s'éternise. Et on va commencer à parler de l'actualité avec toi, Patrick. Ouais. Tu as essayé. On va éviter. Alors, est-ce qu'on dit mot-clé Netflix ou pas plusieurs fois?
On va être obligé.
Du Xbox.
Ah oui, c'est interdit maintenant.
Interdit. L'Amazon Prime du jeu vidéo.
Voilà, c'est ça. Xbox Game Pass.
On va le dire une fois.
Alors, c'est quoi le Xbox Game Pass?
Ah, il n'y a pas de jingle.
Non, il n'y a pas de jingle.
Ah, oh, ok.
C'est le Xbox Game Pass. Voilà, non. Tu l'as eu ton jingle.
Merci
pour ça. Qu'est-ce que tu veux?
Je sais pas, j'attendais.
Le truc de lancement.
C'est vrai, non, mais c'est l'habitude. Hein, c'est le rythme aussi posé par l'émission. C'est important le Xbox Game Pass. C'est pour ça que j'ai voulu le prendre en main, essayer un petit peu, parce que on va le dire une fois, ça y est, c'est un peu présent, ça peut se présenter comme le Netflix du jeu vidéo sur Xbox. Alors en quoi ça consiste? C'est simple, c'est qu'on paye une souscription de 9,99 par mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça.
Et ce qui est aussi accès... le prix de Netflix. Oups, pardon.
Hop, deux fois. Donc évidemment, on paye 10€ par mois et on a accès à peu 150, 170 jeux, je crois, environ, en accès illimité. Mm-hmm. Alors la comparaison avec Netflix s'arrête assez rapidement dans le fait, sur le plan technique, c'est que Netflix, on parle de streaming, c'est-à-dire qu'on a un accès à distance à des contenus qu'on stream comme ça sur son device à la maison. Là, avec le Game Pass, on télécharge les jeux en fait physiquement sur son ils s'impriment sur son disque dur localement et on les lance depuis sa bécane. Alors ça change pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on est moins tributaire de la qualité du streaming, c'est-à-dire qu'on est moins tributaire finalement de sa qualité de connexion.
Par rapport à la comparaison, c'est avec PlayStation Now qui
je n'ai pas essayé, mais qui a priori peut avoir parfois des petits problèmes, mais comme Netflix, trois fois d'artefacts ou des choses comme ça. Là, on n'a pas ce problème, en fait. C'est-à-dire que là, on va télécharger son jeu local et en fait, il s'active localement lorsque je vais lancer mon jeu. Je pense que la bécane vérifie sur son réseau si on a bien la licence Game Pass ou pas, comme on a la licence ou pas Gold lorsqu'on est Gold pour certains jeux qu'on a débloqués en Gold.
Sur Steam, il vérifie que
Ça se joue en local. Et donc,
c'est un gros DRM, quoi.
C'est ça, exactement. Donc finalement, ça, c'est vraiment la grande différence. C'est que je pense que même quand on a une petite connexion ou une connexion moyenne, au pire, on télécharge son jeu dans la nuit et après on peut y jouer autant qu'on veut localement sans être tributaire d'une connexion qui peut être
défiante. C'est pas la première fois, il y avait eu pas mal de tentatives notamment sur PC de faire ces services de jeux par abonnement.
Par abonnement, il y avait déjà eu des choses.
Et là d'après ce que j'ai regardé, on est quand même sur du fond de catalogue,
C'est ça. Alors moi, ce que je voulais essayer, c'était le fonctionnement. Le fonctionnement marche très bien. C'est-à-dire que quand on lance son abonnement, etc.
En même temps, télécharger des jeux sur une Xbox.
Oui, mais c'est.
Il n'y avait pas un défi technologique d'ampleur.
On est d'accord.
Il n'est pas sur Windows 10 aussi, d'ailleurs.
Alors, si, en fait, c'est les jeux Xbox Anywhere commutables entre Windows.
Ils sont crossplay, pas crossplay.
Exactement, donc tout ça est concerné. Moi, je trouve que ça marche très, très bien. En termes de. Quand on se balade sur son store Xbox, on a accès au store classique. Au jeu Gold, et on a donc maintenant cette nouvelle encoche Pass où on va aller piocher dans ces jeux, etc. Franchement, c'est transparent, ça marche bien. On télécharge les jeux. Moi, j'ai la chance d'avoir la fibre, donc ça va très très vite. On lance un jeu, hop, on l'a. Ça se télécharge très très vite. Donc le fonctionnement, la première brique, on va dire de structure fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Ça c'est assez transparent. Les jeux s'additionnent dans les contenus de sa bibliothèque. C'est assez transparent. Ça fonctionne bien. Alors la question aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, c'est au niveau du catalogue qui, je trouve, est assez généraliste et fait très fond de catalogue pour l'instant. En fait, on a beaucoup de classiques, beaucoup de jeux Microsoft. On a du Halo, du Gears of War. On a pas mal sur la cantine, on a beaucoup de jeux Xbox 360 quand même.
C'est pas étonnant. Ouais.
Beaucoup de jeux 360, donc c'est pas mal. On a les 3 BioShock par exemple, c'est plutôt pas mal.
J'imagine que c'est là où Microsoft a dû avoir les deals les plus intéressants.
Je pense que là c'est plus facile de signer du 360 que du que du One. On a du Tomb Raider, le dernier Tomb Raider. On a du Let's Shift, dont on avait parlé. Il y a pas mal de jeux indés aussi, il y a quelques titres. On a du Bayonetta 360. Moi, je me suis refait du Resident Evil 6, par exemple, qui est du
courage,
One.
T'as du courage, quand même.
Ouais, mais quand même, j'ai relancé. Mais c'est aussi l'intérêt de ces plateformes. Ouais, on va développer après.
On va mettre le nez
dedans. C'est aussi de se remettre sur du Resident Evil 6, relancer du Resident Evil 1, le remake ou du 0. Découvrir des jeux indés que j'avais un peu zappé, genre Final
Patrick,
Session.
Resident Evil 6, tu l'as en boîte?
Oui, mais sur PS3, donc faut voir la PS. Enfin, c'est toujours le problème.
Hein, sur PC aussi, j'y pense.
je l'ai sur PS3.
C'est bien, ouais, pour l'avoir facilement, le retrouver, pas forcément. Si c'est compatible, pas compatible. Oui, c'est compatible, ouais, c'est sur ta Xbox.
On paye quand même pour des jeux et c'est 10€ par mois.
Alors, c'est 10€ par mois. On a aussi des jeux un petit peu plus récents. On a du Mad Max, qui était pas mal en open world. On a du MGS5 aussi. Enfin, là. C'est assez généraliste comme
MGS5
contenu.
Quand même.
Ouais, je crois que c'est le préquel, si je dis pas de bêtises.
Grand Zeroes
ouais, je crois, ouais. Je sais plus s'il y a le MGS5 complet, à vérifier. Bon,
je peux vérifier maintenant,
a priori, le catalogue va être amené à se développer. Encore une fois, c'est la première brique. Moi, je voulais voir le fonctionnement est transparent. Il y a un catalogue plutôt généraliste. Je pense très franchement que les hardcore gamers vont se dire, bah ça, je l'ai déjà sur tel bécane ou je l'ai déjà en physique, etc. Je pense que là, il y a une base. Le fonctionnement fait ses preuves. Ça pose, je pense, plus des questions sur la consommation de jeux vidéo. Encore une fois, on est sur ce schéma Netflix qui amène à une surconsommation des jeux. C'est-à-dire, quand on voit du coup cet accès à 150 ou plus de jeux, on a cette envie un peu de toucher à tout. Et je pense que ça questionne aussi notre rapport aux jeux vidéo. Je pense que ça va poser des questions sur
l'aspect physique du jeu. Est-ce qu'on a vraiment besoin
On est passé d'un... Moi, j'étais très attaché à mes jeux physiques. Après, on est passé au démat. Finalement, on s'y est fait, au dématérialisé. C'est vrai qu'on a eu cette habitude maintenant d'avoir ces jeux dans sa bibliothèque démat. Va se poser à terme, peut-être, avec cette émergence du syndrome Netflix dans le jeu vidéo, d'un autre rapport aux jeux vidéo. C'est vrai que... Je pense que l'attachement sera peut-être moindre sur ces jeux
l'accès aux jeux vidéo en tant que service, comme ça se passe sur Spotify et d'autres plateformes.
Je pense que ça posera. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être évaluer les formats de jeux? C'est vrai que sur Netflix, on parle beaucoup des séries qui cartonnent. C'est beaucoup la série télévisée. C'est un vieux mot, ça, la série télévisée, mais des formats de narration différents. Est-ce qu'il ne faudra peut-être pas repenser aussi d'autres formats de jeux, les voir différemment? Ça pose pas mal de questions. En tout cas, aujourd'hui, donc, comme tu disais, donc, le catalogue est encore un petit peu en développement. Ça manque encore de choses vraiment péchues qui vont faire venir. Microsoft a fait des annonces, pour justement booster ce service qui, à mon avis, est important pour eux, parce que ça va être un moyen aussi de fidéliser les joueurs, d'avoir une manne comme ça de revenus importantes. Ils ont annoncé qu'en fait, les exclus Microsoft seraient dispo tout de suite sur ce service. Pour l'instant, c'est anecdotique. Hein. Le premier, c'était Sea of Thieves, qui n'a pas été un carton monumental pour le moment, qui est encore en développement. Moi, par exemple, il y a des jeux qui commencent à me parler. Il y a State of Decay 2 qui arrive courant mai. Moi, c'est un jeu qui me parle. Moi, j'avais adoré le premier. D'ailleurs, je l'ai relancé là avec le. Il est dans le service, donc je l'ai relancé sur Xbox One. Et lui, il arrive sur mai. Je crois qu'il y a PES 2018 qui arrive. Crackdown 3 sera aussi dispo sur le service. Encore une fois, il ne faut pas se leurrer. Ces plateformes, elles vont nous faire venir. Elles vont faire venir les joueurs par des titres. Netflix, on se rappelle, au début, on regardait Netflix de haut. Et puis, il y a eu les exclus. Il y a eu Daredevil qui a commencé à faire parler de lui. Il y a eu Stranger Things.
On a redit Netflix,
Attention. Non, mais moi,
même des buzz qui n'étaient pas forcément justifiés. Cloverfield aussi, par exemple. Et c'est aussi par des titres comme ça en exclusivité qui peuvent faire venir des gens sur
bizarrement je trouve en fait cette idée complètement anachronique et totalement décalée par rapport aux usages. En fait, c'est un truc, le jeu vidéo aujourd'hui, on voit bien, c'est soit du game of services, c'est-à-dire
des jeux qui durent
longtemps, soit des grosses sorties. Donc à ce moment-là, la grosse sortie, c'est fait pourquoi les blockbusters, c'est fait pour déclencher un acte d'achat et pas un système d'abonnement, c'est-à-dire que c'est compliqué de faire aujourd'hui du triple A et de vouloir le rentabiliser avec ces systèmes-là.
Ça va poser des vrais problèmes aux éditeurs.
Je ne vois pas, strictement parlant, l'intérêt, sachant que d'une part, à côté, les gens, il y a des systèmes comme le PlayStation Now, pas le PlayStation Plus qui permet d'avoir pour un système d'abonnement le jeu en ligne, plus quelques jeux deux fois par mois, des jeux gratuits, enfin deux jeux gratuits ou trois par mois.
Et Et surtout, quand j'entendais la liste de jeux, ça me faisait penser au genre de jeux qui étaient ajoutés dans les Xbox Gold et PlayStation et PS Plus.
Ou ça, tu as toujours ça tous les mois.
C'est ce genre de titres-là qui viennent. Je peux comprendre. Je me disais la notion de vieux catalogue, pas forcément retrouvable, tout ça peut être intéressante. Mais c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord avec Herman là-dessus.
Sachant que tu vois, EA a aussi son EA Access, qui est un peu équivalent chez Microsoft.
Je trouve ça assez décalé par rapport aux usages et par rapport à l'évolution des usages surtout.
Encore une fois, c'est les exclusivités qui pourront marquer des coups. Et chez Microsoft aujourd'hui, il y a un manque de titres exclusifs marquants. On voit aujourd'hui.
C'est peut-être l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire retrouver des titres exclusifs avant de lancer ce genre de choses.
Sony, Nintendo pourraient le faire, ça. Mais
moi, je pense que la pérennité de ce service va dépendre aussi de Microsoft, de la façon dont ils vont alimenter aussi en titres forts. Voilà, moi, State of Decay 2, c'est un titre que j'attends beaucoup là, courant mai.
Oui, mais tu vas l'acheter. Tu vas pas t'abonner à Xbox Game Pass.
Après, c'est un abonnement. Tu peux venir repartir comme tu veux. Ça peut être des points d'entrée.
Allez, on va
sur la durée.
On va parler de carton maintenant, hein? Non, du carton.
De carton, de vrais cartons.
De vrais cartons avec Nintendo Labo. Nintendo Labo, on a tous été un peu scotchés en janvier quand on a vu ces
cartons. Elle est bonne.
Je ne l'ai pas entendu. Par cette publicité venue de nulle part avec ce Nintendo Labo où Nintendo nous expliquait qu'il allait nous vendre des planches.
C'était un Nintendo Direct un petit peu.
Ouais, je crois. Ouais.
Avec un projet pour les enfants. Un Nintendo Direct ciblé pour les enfants.
Ou les grands enfants qui peuvent avoir une sensibilité.
Et en tout cas, c'était inattendu ce Nintendo Labo. Il sort cette semaine, ce 27 avril. J'avais eu l'occasion, j'en ai parlé ici, de le tester. Je l'ai reçu et donc j'ai pu tester la phase de montage des petits objets. Alors, pour être tout à fait clair, je n'ai pas reçu la partie robot, qui est la boîte indépendante. Pour l'avoir vu,
qui a priori
ça me semble être la moins intéressante, d'autant qu'elle est plus chère que l'ensemble des autres objets réunis.
Mais tu sais ce que c'est le robot, Erwan? C'était pour refourguer la petite démo de Miyamoto Giant Robot, Project Guard est devenu le spin-off de Star Fox là, qui était vendu avec Star Fox. J'ai vraiment le sentiment, papy Miyamoto, on va les sortir tes jeux, t'en fais pas. Mais à chaque fois c'est genre sous la jambe, c'est hallucinant. Bref.
Nintendo Labo. Alors, moi, j'étais curieux, notamment de la phase de montage. J'avais monté la petite voiture, en fait, qui est une sorte de tutoriel qui se monte en 10 minutes. 10 minutes en étant large.
Le carton, il est de quelle qualité? Ça, c'est la question.
Déjà, la boîte se présente comme... La boîte est très remplie. C'est-à-dire que toute l'épaisseur de la boîte, il y a, je crois, à peu près 25 planches de carton à l'intérieur de cette boîte. C'est-à-dire qu'il y a toute l'épaisseur de la boîte, c'est du carton.
C'est lourd.
Le carton est de très bonne qualité. Alors, je ne connais pas, je pense qu'il doit y avoir d'énormes qualités de carton, le bois, pour ce genre de choses.
Eh bien, dans les commentaires, les nerds du carton vont juger, vont mettre une note.
Mais en tout cas, le fait est que c'est un carton absolument idéal pour être manipulé, pour être plié.
Il tient les pliures, il tient la manipulation.
Tout à fait.
Ça devait être un choix difficile parce que je pense qu'il fallait le faire suffisamment solide pour que ça soit à l'épreuve du jeu et en même temps suffisamment fin pour que ça puisse se plier facilement. Tu peux pas prendre un carton de déménagement et espérer faire des trucs avec, quoi.
C'est ça. Et alors, le truc, c'est que pour résumer, j'ai pas tout monté parce que ça prend du temps. Donc j'ai parlé de la petite voiture. La petite voiture, alors c'est quoi? C'est un petit bout de carton sur patte et tu branches les deux Joy-Con, tu plugs les deux Joy-Con et avec les vibrations que tu commandes avec l'écran, ça le fait bouger de gauche à droite et si tu appuies sur les deux en même temps, ça le fait avancer. C'est assez magique, hein, y a un côté absolument magique, mais c'est assez anecdotique.
Ça rend les chats complètement fous parce que j'ai vu sur internet. Ça les rend complètement fous.
Ce serait pas mon chat pour chez les cartons, personnellement.
Et donc, dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Nous trouvons une maison, nous trouvons une canne à pêche, un piano et un guidon de moto et une dernière planche de labo, donc qui sera destinée à faire des expériences.
Et c'est une cartouche.
Et la cartouche des jeux, évidemment. Non, pas des jeux. Oui, il y a les jeux, mais il y a le jeu presque principal. C'est il y a la notice de montage dans cette carton, dans cette cartouche.
Dans le cartouche, d'accord.
C'est-à-dire que en fait, on lance et c'est avec l'écran de la Switch que nous allons apprendre à monter les choses. Et là,
comme dans Lego Dimension.
C'est une leçon de design. C'est une leçon de design à tous les gens de la planète qui font des modes d'emploi, qui font des modes de montage.
Écoute, IKEA, c'est...
mais carrément quoi. Enfin, t'es
c'est en 3D, non ? Du coup, tu vois les cartons en 3D.
C'est en 3D,
tout ça.
C'est animé. C'est tu choisis ton rythme. Tu peux tourner autour. C'est bruité. Mais alors c'est un détail. Hein. C'est un détail, mais c'est bruité. C'est-à-dire que tous les mouvements ont des sons différents. Ouais. Quand tu plies, ça fait un son. Quand tu enclenches quelque chose, ça fait un son. Tout le montage se fait sans autre ingrédient que le carton lui-même. Il n'y a pas de scotch. Il n'y a pas d'adhésif, etc.
Sauf... du coup, j'imagine que quand tu entends le même son, toi, quand tu le reproduis, ça te valide un peu finalement pour
exactement,
toi-même.
Ah, oui. Exactement. Il y a un effet psychologique où tu sais que tu es sur la bonne voie.
Ça, c'est ce qu'il fallait faire.
Oui, mais c'est autant de petits détails. Alors, le design, alors je parlais de design du mode de du manuel de montage interactif. Il y a le design des cartons en eux-mêmes. C'est absolument incroyable. Il n'y a aucune faute, aucune erreur de goût, aucune erreur mécanique. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y a énormément de moments dans les montages. Donc, moi, j'ai fait la canne à pêche et la maison. Il y a énormément de moments où on se dit, mais ces gens sont des génies. Ouais. Comment ont-ils fait ? Comment est-ce que je réussis à faire un moulinet de canne à pêche avec des bouts de carton et ça marche et j'y arrive et c'est... À un moment, alors pour la maison, il faut compter entre 1h30 et 2h de montage. Pour la canne à pêche, un peu entre 1h et 1h30.
Tu parles en temps adulte ou en temps plutôt enfant ?
En temps adulte.
En temps adulte.
En temps adulte. Alors, j'ai, pour en parler, donc j'ai essayé d'interviewer mon fils Arthur, qui va donc nous parler de Nintendo Labo. On l'écoute. Comment est-ce qu'on a fabriqué la canne à pêche et la maison ?
Avec du carton.
Et comment on a fait ? On a regardé sur la...
sur la tablette qu'elle nous disait.
Et toi, tu as fait quoi ?
Et moi, j'ai appuyé pour que ça avance.
Et est-ce que c'était trop long ?
Un peu.
Et donc après, comment est-ce qu'on joue avec la maison ? Raconte-moi.
Il faut mettre des trucs dedans et après, elle marche.
Et il y a quoi dans la maison ?
Rien.
Il y a une bestiole. Qu'est-ce qui se passe dans la maison ?
Non, je croyais que dedans la maison, dedans le carton.
Ah oui.
Et Erwan, je crois qu'on t'appelle derrière.
Voilà. Alors c'est un peu le danger hein, quand on fait une interview un peu comme ça, improvisée. Il y a des éléments extérieurs qui arrivent. Hein, voilà, ouais. Hein, il faut faire avec.
Interrompre.
Donc en fait, là, Arthur donc, nous parlait de la maison. Donc la maison est une. Le jeu est assez original, donc c'est une sorte de Tamagotchi, donc on a un petit monstre qui est à l'intérieur de la maison et on a trois objets qu'on va pouvoir insérer dans trois trous qu'il y a sur trois faces de la maison, en dessous et sur les deux côtés. Et en fait, c'est donc on a une sorte d'interrupteur, une manivelle et un bouton poussoir. Et en fonction du lieu où on va les mettre, la combinaison entre les deux, ça va faire différentes choses. Par exemple, si on fait le sorte d'interrupteur, enfin qu'on met sur le côté, ça va faire un robinet. Ça met un robinet et puis si on l'actionne, ça fait de l'eau.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une face des maisons, il y a l'écran de la Switch en fait.
Exactement, on met l'écran de la Switch devant.
Qui donne en fait le monde imaginaire de la maison. Et alors du coup, ça marche comment les boutons ? C'est des autocollants réfléchissants, c'est ça ?
C'est ça. Donc en fait, j'ai dit qu'il n'y avait que le carton. Il y a quelques éléments d'autres, notamment par exemple pour la canne à pêche, il y a la corde, hein, évidemment. Ouais. Elle ne va pas être en carton. Et il y a des. Alors c'est le point le plus technique, mais c'est encore une fois sur l'interface passe, c'est super bien expliqué. C'est, il y a des petits autocollants réfléchissants à coller à certains endroits pour que finalement ça marche comment. C'est la Wiimote du Joy-Con droit, je crois, qui a une caméra infrarouge.
C'est
et qui va repérer tout ça, qui va repérer les notes de piano qu'on est en train de jouer, qui va repérer, alors ça ne sert pas dans la canne à pêche, mais qui va repérer différents objets qu'on peut mettre dans la maison, etc. Alors, j'ai pas désespéré, hein, on a continué à parler de Nintendo Labo avec Arthur. Et donc, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que ça fait quand on met des objets ?
Ça fait ? Eh ben, l'animal, il a des trucs. Et si on en met deux, ça fait des os.
Et tu peux me raconter un jeu ?
Ben, il faut l'accrocher au ballon. Après, il monte dans les nuages et il faut qu'il s'éclate tout seul. Attention, parce qu'il y a des pics qui avancent.
Et quand on met le truc qu'il faut tourner dans la maison, ça fait quoi ?
Ça fait des trucs qui tournent.
Mais quoi ?
Un ventilateur. Toutes deux sortes. Papa,
maman, il a arrosé ma robe. Vous la mettez à la lave-tine à laver.
Voilà. Alors, encore une fois, nous étions interrompus dans une grande conversation.
La robe est incluse dans la boîte de jeu ?
Non.
Ah, tu l'as senti comment, Arthur ? Est-ce qu'il a cru au truc ou est-ce qu'il est resté devant une console ? Tu l'as senti comment ?
Alors, j'ai senti très emballé. Hein, donc,
parce qu'il attendait. Hein, ça
oui,
fait des semaines,
il a compté les jours disais, quand même. Il a compté les jours depuis le moment où on a testé.
Ça s'est pas dégonflé quand il a vu
non,
le truc arriver.
Non, ça s'est pas du tout dégonflé. Surtout, il attendait cette maison. Hein, avec, donc, quand il raconte les jeux, c'est quand on met une certaine combinaison d'éléments, on va avoir des jeux. Ça va nous faire gagner des bonbons qu'on va pouvoir cuire dans un four, qu'on va faire des gâteaux, qu'on va pouvoir donner aux monstres, qui va changer de couleur. C'est très bien fait. Alors, je le répète, je l'avais déjà dit, j'ai interviewé mon fils notamment parce que c'est la cible de Nintendo Labo. Tous les éléments de Nintendo Labo ne sont pas destinés aux adultes. Hein. C'est le temps de... En fait, ce qui est destiné aux adultes, c'est le montage. Il y a une durée de vie de jeu pour les adultes de 5 ou 6 heures, le temps de monter les éléments. Et c'est vraiment drôle. Enfin, c'est vraiment une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et après, on donne ça aux enfants.
Tu dis ça, mais je vois pas mal de vidéos parce que les gens commencent à récupérer Nintendo Labo, où il y a de la programmation, il y a du do-it-yourself, il y a des choses intéressantes.
Exactement.
Quand même.
Donc ça, on va continuer. J'ai deux petits éléments où j'ai essayé de parler de la canne à pêche avec Arthur.
Alors raconte-moi la canne à pêche. Comment est-ce qu'on joue à la canne à pêche ?
Bah, il faut pêcher des poissons.
Et comment est-ce qu'on pêche des poissons ?
Avec la canne à pêche.
Voilà.
La canne à pêche.
Voilà. Non, ne te
C'est trop chou la canne à pêche.
J'ai bien compris qu'on tournait un petit peu en rond hein, dans la conversation, donc j'ai juste enregistré. J'espère ne pas vous ennuyer avec cette photographie de ma vie familiale.
Quand Arthur manipulait le carton, est-ce que le carton tenait ? Est-ce que tu as senti que ça tient ?
Ah oui, il vaut mieux que ça tienne, hein, parce que j'ai répété à peu près 150 fois
« Attention,
évite de taper trop fort sur le bouton poussoir de la maison », et bon, évidemment, ça ne marche pas. Hein, mais le bouton a jusqu'ici résisté.
D'accord.
Ça fonctionne plutôt
pas mal.
Je me
rappelle une phrase que tu avais sortie lors d'un podcast où tu dis « Je donne la Wii U à mes enfants et la Switch pour moi ». Est-ce que là, t'as pas un peu peur quand ils se manipulent un peu la Switch ?
Alors, en ce moment où je vous parle, par exemple, je sais que Arthur ne joue pas avec son Nintendo Labo. Je serai présent à chaque fois parce que
c'est bien.
Alors, ceci dit, l'écran de la Switch dans les cartons Nintendo Labo, il est inséré. C'est-à-dire qu'il est à limite protégé par le carton. C'est moins stressant de laisser un enfant jouer avec les Nintendo, avec les cartons de Nintendo Labo parce que l'écran est protégé et les manettes aussi sont enclenchés. Enfin, on va l'écouter juste un tout petit peu jouer à la canne à pêche.
Bon, bah, je vais te laisser jouer maintenant. Tu vas jouer à quoi ?
À la canne à pêche.
Et tu vas pêcher quoi comme poisson ?
Des gros !
Des gros ?
Oui. Oh. Moi, si je veux pêcher un poisson, non, c'est moi d'abord. Il dit, tu veux jouer ? Le poisson, il dit, tu veux jouer ? Il n'arrive pas à attraper, il est là, il est parti. Ah non, il n'est pas parti, il est là. Il voit pas bien celui-là, dis donc. C'est parce que dans l'eau, on ne voit pas bien. Oh, c'est raté. une raie à les bords. Manger du poisson qu'on a pêché.
Deux poissons.
Non, trois. Ou peut-être plus. Papa.
Eh oui, papa.
Voilà, c'était juste... Bon, hein, j'espère ne pas vous avoir ennuyé, mais voilà, c'était pour vous montrer aussi qu'il y a, il y a cet élément, ça marche
ça
bien, ça fonctionne avec les enfants, en tout cas. Voilà, j'en ai un
peu... Ça sera un truc culte dans 20 ans, il va s'en rappeler. Je pense que les gamins, ça va les marquer, ce truc, parce que c'est quand même super original. Ouais. En fait, l'image, tu la recraches pas sur l'écran de télé du tout. En fait, tout se fait en local avec la Switch en portable.
Et donc, le dernier élément dont je voulais parler, peut-être le point un peu le plus adulte, mais en même temps qui va concerner un nombre limité de gens, c'est l'aspect labo, l'aspect lab de Nintendo Labo. On a déjà quelques créations qui commencent à émerger à droite à gauche. On refait des Game & Watch ce genre de choses. Alors c'est tout un petit environnement de développement, mais qui est assez bien conçu, qui m'a rappelé un peu le WarioWare Do It Yourself c'est beaucoup plus simplifié que WarioWare Do It Yourself, que j'avais vraiment adoré à l'époque. Mais il y a on peut jouer sur, la manette va bouger? Est-ce que ça va vibrer avec des entrées et des sorties, des choses que ça va faire? Et du coup, on peut inventer des choses. On va mettre les manettes à certains endroits, elles vont vibrer, elles vont tomber, ça va pouvoir faire des choses. Il n'y a que... Alors, Nintendo va... Un peu la communication de Nintendo va dire il n'y a que votre imagination comme seule limite. Bon, il y a aussi l'étendue de l'espace de développement qui est relativement limité comme grosse limite. Mais on va commencer, je pense, à voir émerger quelques applications marrantes. Et puis, quand on revoit la pub aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a d'autres objets qui ne sont pas aujourd'hui disponibles, qui peuvent arriver à terme. Des objets... rebondissant, des choses comme ça.
Ils l'ont dit de toute façon, Nintendo, que c'était qu'un début et qu'ils allaient sûrement...
Il y a un truc qui ressemble un peu à un pistolet, truc comme ça qui n'existe pas. Donc, on peut imaginer plein d'autres applications et peut-être un lab un peu plus développé. Mmh. Moi, c'est un peu ce que j'aurais envie de voir. Alors, donc, là-dedans, il y a une planche de carton, en tout cas, qui est destinée un peu à faire un peu ce qu'on veut et tout ça. En tout cas, c'est, je trouve, moi, une très belle réussite et surtout, voilà, en termes de... c'est vrai que la Switch ne remplissait pas cette sorte de promesse de Nintendo récurrente qui est Nintendo est le dernier des grands créateurs de jeux vidéo à s'adresser encore aux enfants, parce que le jeu vidéo est devenu très très adulte quand même ces dernières années, sauf certaines exceptions comme Minecraft. C'est vrai que la Switch, par ce côté un peu fragile, c'était pas vraiment destiné aux enfants, qu'on préfère voir avec une 3DS qu'avec une Switch dans les mains, et donc avec ça, voilà, ça c'est aussi une porte d'entrée que je trouve assez intéressant, en tout cas dans un cadre familial.
Est-ce qu'au final, on peut le dire, c'est un peu le Netflix du carton, tout ça, hein?
Allez, c'est fini pour Nintendo Labo. Je n'ai pas non plus là, je le préviens, cette fois-ci de jingle. Mais Corentin, tu as testé. Oui. Alors, on va en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une nouvelle carte de PUBG, mais ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec ce jeu.
Eh oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, PUBG, il caracole plus vraiment en tête. C'est Fortnite là qui prend tous les.
Il s'est pris une belle claque.
Il s'est pris une belle claque. C'est Fortnite qui est sous les feux de la rampe en ce moment. Du coup, PUBG, enfin l'équipe de Blue. Ils se sont dit, on devrait peut-être se bouger le cul pour sortir nos mises à jour. Et ils ont sorti cette map qui n'était même, je crois même pas que c'était censé être la suivante qui devait sortir, mais a priori on se dirige vers celle-là, qui est une carte en plus petite. Donc, nom de code Savage, a priori, ils vont peut-être garder ce nom-là, je sais pas trop. On a eu donc Erangel qui se passait dans une espèce de campagne hongroise ou russe ou je sais pas quoi. On a eu donc Miramar qui se passait peut-être
dans le désert,
sud des États-Unis, Mexique, quelque chose comme ça. Et donc là, Savage qui se passe sur une île tropicale. Et alors, le principal attrait de cette carte, c'est que contrairement aux autres, elle ne fait pas 8 km sur 8 km, mais 4 km par 4 km.
Donc, ça change tout.
C'est plus convivial.
C'est plus intime. un quart donc, de la surface jouable.
Ça fight plus, c'est plus concentré du coup.
Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. D'autant que...
C'est un peu comme si on atterrissait tous dans la base militaire.
Ouais, ou dans la zone,
quoi. On va peut-être pas exagérer, mais...
Ça intensifie, quoi. Enfin, j'imagine
non, que... Non, quoi que si, ouais, il y a un peu de ça. C'est pas impossible que la taille de la zone militaire...
C'est plus dur, alors, du coup, c'est plus difficile, non ?
Oui et non. C'est-à-dire que le... Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que la taille des maps. Il y a aussi le rythme du jeu qui a été modifié, notamment le temps des shrinks. C'est court quand tu as un nouveau shrink qui apparaît, fait 40 secondes. Ouais, attends, je viens de rentrer dans le nouveau cercle là si tu veux. Donc un shrink, je rappelle, c'est le moment où la zone se rétrécit. Et c'est le rythme du coup est modifié. Donc soit vous atterrissez dans la zone directement.
Et là, on y reste.
C'est comme d'habitude.
Faut camper, quoi.
C'est comme d'habitude et vous pouvez camper, mais là, la camp est moins rigoureuse qu'avant parce que déjà il y a plus de passages.
Ouais,
et puis les shrinks sont tellement rapides qu'en fait vous allez vite être même délogé par la zone elle-même. Même, et c'est limite plus dangereux de ne pas avoir connaissance de ces environnements que de continuer en déplacement. C'est ce qui arrive, puisque sur cette map qui est beaucoup plus petite, qui est donc un quart de la taille habituelle, tout peut se faire à pied quasiment. C'est-à-dire que on n'a plus cette notion de « Ah, la nouvelle zone va me tuer sauf si je trouve un véhicule ». Il
n'y
a plus ça. Il n'y a pas ça, parce que même quand vous regardez la map, donc, qui fait toujours la taille de l'écran quand vous la regardez, finalement les distances sont 4 fois plus courtes. Et donc tout peut se faire à pied.
À pied,
que vous voyez là,
il n'y a plus les déserts comme ça.
Et si vous n'avez pas de véhicule, c'est pas grave. Alors que Miramar, c'est peut-être un des pires défauts de cette carte, c'est que si tu n'as pas de véhicule, tu peux vraiment mourir, mais très facilement.
Ça peut vraiment être ennuyeux de courir comme ça.
Moi, il y a un petit côté un peu expérience avec soi-même que j'aime beaucoup quand tu cours comme un dératé dans le désert. Tout ça pour courir pendant une demi-heure pour te faire tuer par une balle de sniper. Oui. Moi, j'apprécie énormément ce genre d'expérience qui finalement change ton rapport aux jeux vidéo.
Existentialiste.
Voilà, est-ce que finalement ça n'est pas un peu vain ? Bon, là, on n'a pas ça. Et tout est un petit peu, on va dire, instable dans cette map-là, puisqu'en plus, la météo change en direct. C'est-à-dire que d'habitude, la météo, vous avez une météo qui est fixe. Donc, par exemple, vous pouvez arriver dans Erangel avec de la brume. Et bien là, non, la brume peut arriver en cours de partie. Ça change. T'es là, tu te montes un sniper de ouf, et là, t'as la brume. Et t'es en mode, non, mais t'es sérieux, le jeu ? Mais nique ! Voilà. Donc, t'es un peu. T'es obligé de un peu plus t'adapter. Mais en même temps, comme ça va très vite, tu t'adaptes ou tu crèves assez rapidement et tu relances ta partie. Alors du coup, ça donne des parties très 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 rapides. Alors comme vous pouvez vous en douter, avec des débuts, des premières minutes, mais d'une tension. Parce que en fait, t'atterris, et donc souvent le premier réflexe quand on arrive sur une map dans PUBG, si on regarde autour de ça, alors est-ce que je suis tout seul ? Là, vous pouvez même pas vous poser la question. Vous n'êtes pas tout seul.
Il y a du monde.
Vous n'êtes pas tout seul.
C'est bien, ça, je trouve. Enfin, quelque part, c'est
ouais.
C'est complémentaire.
Moi, je sais que mon expérience de PUBG, c'était généralement de sauter loin de la trajectoire de l'avion pour au moins avoir quelques minutes un peu stratégiques de tranquillité. Sauf que j'aimais bien sauter dans le cratère aussi, mais ça, il y avait du monde.
Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que donc, il y a du monde autour de nous, mais on peut, a priori, il y a des mises à jour qui vont arriver. Alors, il y a plein de mises à jour qui vont arriver là pour PUBG, je pense, qui sont mis en activation. Il y a les squads A8 qui vont arriver. Et là, alors, je sais pas s'ils vont le laisser ou quoi, mais il me semble bien que la première zone est connue quand on est dans l'avion. Donc vous pouvez décider de sauter hors zone pour qu'il y ait moins de monde, justement. Parce que dans la zone, il va y avoir un petit peu de monde, quoi. Donc peut-être que niveau tactique, vous pouvez vous écarter un peu de la zone pour essayer quand même de vous isoler un minimum, histoire de vous stuffer et ne pas immédiatement se retrouver dans le cœur de la mêlée et mourir parce que c'est pas toi qui a ramassé le pistolet en premier, c'est le mec d'en face. Et après, une fois qu'on a passé, on va dire, ce seuil-là des premiers affrontements, soit on est dans la zone par chance et donc on peut camper un peu éventuellement, mais surtout, et je trouve ça cool, et c'est ma toute première partie que j'ai faite, elle s'est vraiment déroulée comme ça, c'est vraiment avancer avec la zone. C'est-à-dire que la zone va se réduire et va se réduire vite, et vous devez tout le temps avancer. Vous pouvez pas vous dire, tiens, je vais rester là un peu, machin. Donc on est là en train d'avancer un peu en escouade.
Ça change
commando.
Quand même fondamentalement le rapport à l'espace.
C'est un rapport en fait de avancer, effacer les ennemis, avancer, effacer les ennemis, tuer le mec, avancer, prendre sa place, récupérer.
C'est intéressant que le jeu se change autant.
Et du coup, ça change vraiment le rapport PUBG qui passe de survie à commando, quoi. Vraiment, on est là, il y a la zone de fin, on y va, et les parties évidemment peuvent durer très peu de temps. Là, c'est un peu embêtant parce que comme c'est les tests serveurs, évidemment, on attend assez longtemps que les maps se remplissent et qu'on joue, donc on attend plus qu'on joue finalement sur les tests serveurs actuellement. Mais quand ça sera ouvert à toute la communauté des joueurs, évidemment, j'ai que 10 minutes, hop, tu te fais une petite savage, ça va vite. Et attention, parce que là, dans cette map-là, ça m'est arrivé au début, ils vous donnent, sur le test serveur, serveur, il vous donne plein de caisses et plein de clés pour vous amuser à essayer un peu les trucs. Je me suis habillé en kéké légendaire des années 70. C'était bon, magnifique. Ça. Je m'étais mis un pantalon rouge, flashouille. Erreur.
Tu penses que c'est une réponse à Fortnite, en fait.
Certainement.
Au côté plus dynamique, plus rapide.
Mais en tout cas, et pour conclure, habillez-vous vert. Habillez-vous discret dans la gueule, c'est très important. Voilà.
Donc, c'est très bien.
Savage, c'est bien, ça renouvelle le concept. Et on va voir aussi ce que va donner Fortnite avec le 50 versus 50, même si a priori je suis un peu plus sceptique. Voilà.
Alors, autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans les temps. Du tout. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler de la grosse sortie. Bah oui, on peut pas le reporter d'une semaine parce que c'est le retour assez inattendu à ce niveau, il faut bien le dire, de célèbre Kratos.
Alors je suis un homme, comme toi.
Non, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Nos responsabilités sont gigantesques.
Tu peux tuer un truc aussi gros?
Tu peux tuer un truc aussi gros?
Moi, oui.
Normal, tranquille, quoi.
Si tu me donnes une scarelle et un suppresseur, sans problème.
Non, là, nous parlons de God of War. Et cette question, est-ce que je peux tuer un truc aussi gros? C'est une question récurrente de la série de God of War.
Depuis les débuts,
c'est
hein.
Le jeu qui nous a fait découvrir l'effet d'échelle, hein, qui a été sublimé dans d'autres titres, finalement, qu'on connaît aussi. Mais le premier grand jeu à mettre en place ces effets d'échelle absolument fous, c'était le premier God of War sur PlayStation 2. Et qui avait scotché vraiment, vraiment tout le monde. C'était fin de vie de la PlayStation 2. Ça poussait un peu la PlayStation 2 à son maximum. Bon, Kratos qu'on a suivi sur God of War 2, le 3, et puis quelques autres aussi. Des
parallèles sur les portables.
Exactement.
C'est une longue lignée.
Qui n'a jamais fait dans la subtilité et en même temps, voilà, qui a établi un peu ce personnage qui est rentré dans la pop culture de ce dieu grec Kratos, au point de devenir aussi une chanson de PNL. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même, ils ont fait une chanson qui s'appelle Kratos.
Okay.
Et qui est lié du coup à...
Bah oui,
ah ouais,
bah
d'accord,
oui,
bon,
Kratos. Et donc on retrouve Kratos dans ce qui n'est pas, contrairement à la mode qui est assez récurrente dans les autres grandes franchises, ce n'est pas un reboot. Mm-hmm. C'est une continuation.
On retrouve
Kratos un peu vieilli, un peu loin de chez lui, parce qu'il est un peu dans les contrées nordiques. Patrick, alors ce premier rapport avec ce...
Alors moi, le premier rapport, c'est les critiques qui commencent à tomber, parce que j'ai reçu le jeu quelques jours, et critiques dithyrambiques. Et j'ai tendance à me méfier, à prendre un petit peu... quand on voit les notes qu'a eu le jeu, j'ai tendance toujours à me dire, bon, attends, c'est quoi cet emballement, qu'est-ce qui se passe, quoi. Surtout que God of War, moi, j'ai toujours eu un rapport un peu distancié avec cette série, que j'ai toujours aimé pratiquer, mais sans avoir vraiment un vrai coup de cœur. Ouais. Pour moi, c'était plus des démos techno, artistiques. Moi, j'adorais la façon de mettre en scène les ennemis, où finalement, on s'apitoyait presque pour eux, quand on voyait le déluge de violence. Des fois, il y avait un rapport même à l'environnement et aux ennemis qui était assez particulier. Mais j'ai jamais eu vraiment un rapport très proche avec cette série. Je suis toujours resté extérieur. On l'essaye, on le lance, et là, ouais, il se passe un truc. Il se passe vraiment un truc c'est impressionnant, quoi. Vraiment, le jeu, je trouve qu'il l'envoie quand on le lance. Alors déjà, il y a ce changement de caméra, le fait d'être en troisième personne. Moi, tout de suite, ça a titillé ma fibre Resident Evil 4-esque, si on peut dire. Il y a vraiment un rapport assez équivalent et aussi cette idée de plan séquence, parce que le jeu se présente comme un énorme plan unique ou presque.
C'est ouf. Enfin, ça, pour le coup, il y a un effet.
C'est un tour de force, quoi. Ouais. C'est un vrai tour de force.
Il y a presque un effet de sidération à force.
Ah bah c'est clair. Et puis ce syndrome, alors, tu parlais de la PS2 qui crachait ses tripes à l'époque. Moi, j'ai une PS4 de 2014, donc lancement, quoi. Je suis pas sur Pro ni quoi que ce soit. J'ai lancé le jeu là-dessus. Pareil. Mais à un moment, je me disais, mais il y a quoi là-dedans? Enfin, le jeu, il est d'une telle finesse visuelle, d'un tel cachet. On en prend plein la figure et on se dit, mais la bécane, comment ils ont réussi à tirer ça de cette console, quand même, qui a quand même quelques années.
Petit détail, God of War m'a obligé à nettoyer ma PS4 parce que c'est un petit détail, mais
elle chauffait trop.
Le truc c'est qu'il y avait un peu de poussière dans les zones d'aération et en fait j'en entendais plus le jeu. Elle était à bloc, le ventilo était à bloc et tout ça, donc j'ai dû nettoyer la PS4 pour que le ventilo se mette à ralentir et que je me remette à réécouter le jeu. Parce qu'en fait, il pousse. Je pense qu'il pousse la console, mais un peu comme la PS2 était poussée au max avec God of War.
C'est impressionnant. Puis encore une fois, moi j'étais emporté. Encore une fois, j'avais des retenues, j'avais des réserves. Attention, c'est quoi cet emballement? Cette série God of War, oui, c'est de la démo, mais on a embarqué en fait. Embarqué par la mise en scène, par ses personnages, par. En fait, ce qui est fort, et après plusieurs heures, j'ai pas encore fini le jeu, parce que je prends le temps aussi d'en profiter. C'est vrai qu'il y a ce côté. Pour moi, c'est une expérience totale. Il y a à la fois le fun. Moi, j'aime bien les beat'em all, beat'em up. Enfin, c'est un genre que j'aime beaucoup, hein, depuis très longtemps, même trop longtemps. Et il y a ça dans ce jeu qui mixe ça avec de l'exploration, avec aussi des énigmes environnementales. Je trouve que c'est bien foutu. Cet aspect expérience globale, moi je trouve ça intéressant de marier comme ça. À la fois, on reste sur du beat'em all, foncièrement, c'est un jeu d'action et de baston, mais en même temps, on sent que c'est un jeu qui a appris, qui a compris ce qui s'était passé depuis 10 ans, les Last of Us, les Resident Evil 4 ou 5, comme je disais, ou 6. On sent qu'il y a eu plein d'inspirations, que le jeu s'en est inspiré, les a avalés. Et à imbriquer tout ça pour une sorte d'expérience totale. Alors, tout n'est pas parfait à 100%.
C'est une vue moderne d'une vieille licence, en fait. C'est un peu ça.
Pour moi, il transfigure complètement ce qu'était God of War.
C'est plus God of War. C'est vrai, il y a à voir avec des choses. Mais c'est vraiment un jeu, comme tu le dis, c'est un jeu qui
synthétise.
Qui s'est dressé sur les épaules des géants, en fait, comme on dit dans l'expression. Mais c'est un peu ça, il a regardé, les combats, ils doivent avoir un sens, on doit avoir un vrai sentiment d'accomplissement quand on en arrive à bout, même quand c'est des petits, des moyens, des gros et tout ça. Ça, on va se répéter, c'est des choses qu'on dit régulièrement sur plein de jeux, mais c'est un héritage de Dark Souls. Il y a l'héritage de Uncharted, qui est évident aussi en termes de paysage, en termes de puissance.
Bien sûr, de mise en scène cinématographique.
De mise en scène et de narration
aussi par les mouvements, par les déplacements, par la découverte des décors.
Ouais.
Et puis Resident Evil 4, moi je reviens dessus parce que pour moi c'est un des jeux vraiment moteurs de ces dernières décennies. Même rapport aux ennemis, pouvoir jouer avec l'environnement, se déplacer. Je trouve qu'on a un rapport très proche. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur des compliments qu'on puisse faire à God of War. C'est cette filiation comme ça à des jeux qui ont vraiment marqué. Mais en même temps, il transfigure tout ça. C'est-à-dire qu'il se contente pas non plus uniquement de piller à droite à gauche. Encore une fois, c'est une expérience totale. Et je trouve qu'on est embarqué dans cette aventure. Il y a un côté, c'est peut-être aussi lié au plan séquence, hein, à cette figure de style qui fait aussi qu'en tant que joueur, on est vraiment embarqué là-dedans. Enfin, on est un peu pris dans le
c'est
mouvement.
C'est compliqué d'en sortir. C'est assez étrange.
Mais c'est clair, on a du mal à arrêter.
Ça m'a pas fait ça depuis assez longtemps. Et c'est compliqué d'arrêter une partie. Alors, moi, j'ai une remarque à faire sur les modes de difficulté. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que là il y a deux jeux différents. Il y a vraiment deux jeux différents pour l'avoir testé. Alors je ne parle pas du mode hard qui est inaccessible pour moi, mais il y a donc le mode normal et le mode histoire et je n'ai jamais ressenti à ce point.
T'as essayé les deux du coup?
Ouais, j'ai essayé les deux et j'ai jamais été autant entre guillemets frustré par le mode histoire.
Là, j'ai pas essayé le mode histoire.
C'est-à-dire que
le
mode histoire enlève énormément de ce qu'amènent les combats.
Ouais,
c'est-à-dire les combats deviennent une formalité.
Ils sont pas tous faciles, hein. Il y a des combats, Il y a des moments très très vite, au bout de 2-3 heures de jeu, on s'en prend plein la tronche.
Ils sont...
Mais c'est bon.
Mais oui, voilà, c'est ça. Et alors, le mode histoire, qui a, bon, on avance, on apprécie un peu l'univers et ce genre de choses, mais on perd carrément. C'est assez étonnant. Je pensais qu'il y aurait une petite baisse dans la difficulté. Non, c'est.
Il y a des combats quand même.
Il y a des combats, mais il n'y a plus de difficulté. Alors qu'en fait, il faut bien voir que le système de God of War, donc, c'est un système basé sur deux personnages. Donc, on joue Kratos et on est accompagné d'Atreus, son fils, qui lui tire à l'arc. Là, pour le coup, c'est une belle trouvaille dans un système de beat'em all. C'est le système de l'aggro qui est mis dans un jeu solo, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'en faisant tirer Atreus sur les ennemis, Atreus va capter l'attention de l'ennemi qui va se retourner. On va pouvoir s'approcher, on va pouvoir le taper, on va pouvoir s'éloigner. Donc, c'est toute une stratégie comme ça et de placement entre les deux personnages.
Ça marche
et
bien.
Avec
ça
une
marche
belle
bien.
Courbe d'apprentissage.
C'est pas un boulet du tout. Alors que ça aurait pu. Hein.
C'est le risque quand il y a des.
C'est clair. C'est pas du tout un boulet. Au contraire, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça. Au début, on joue sans lui quasiment. Ouais. Et puis, la difficulté avance, on a vraiment besoin de son aide. Et enfin, c'est vraiment, il y a une complémentarité. Quoi. C'est vraiment
bien
fichu.
Donc, très, très belle réussite ce God of War.
Et tout est bien fait, mais même le jet de la hache. Même, c'est tout simple, c'est un détail.
C'est pas un détail. C'est de nouvelles armes.
Le rendu de la hache.
Alors, on retrouve les double épées plus tard, mais la hache, c'est trop bien.
Un peu comme Thor, comme Thor qui a son marteau.
Mais c'est pas comme Thor. Cette hache, c'est Mjolnir. C'est
vraiment
exactement ça.
On a un rapport.
J'en discutais avec Marius, mon collègue à Libération, qui fait la critique qui sort ce week-end. Mais pour lui, il se demandait qu'aurait donné ce God of War avec une licence Marvel.
C'est évident.
Le retour de la hache, parce qu'on peut la lancer et la rappeler. Ce retour-là, en plus, avec une gestion de la vibration sur la manette, juste aux petits oignons.
J'ai passé de longues minutes à m'amuser avec.
Très réaliste. Donc
c'est incroyable. Et encore une fois, les combats, le gameplay, il y a un vrai ressenti physique de justement des coups avec les gâchettes, les systèmes de coups puissants, moins puissants. Enfin, ça a l'air tout bête comme ça, mais il y a un vrai rendu, je trouve, physique avec la manette. On a vraiment quelque chose de très ressenti dans ce jeu finalement.
Et
c'est vraiment une expérience.
Dernier point sur les bémols, parce qu'il y en a. Moi, j'en ai noté deux principaux. Mm-hmm. C'est l'interface qui est jolie. De très bon goût graphique, mais de très pas bon goût conceptuel. Il y a trop de gâchettes, de sous-menus, de sous-catégories.
Ah, tu vois, je trouve ça... le côté un peu RPG, évolution du personnage, qui est un peu compliqué.
Je trouve ça assez étonnant. Je pense qu'il y a eu un problème à un moment dans le développement de ce jeu. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette interface, cette organisation, on va dire, totalement ratée pour moi, avec un jeu si bien réussi autour.
Avec des sous-menus, sous-menus.
Il y a une vraie problématique là-dedans, comme s'ils avaient voulu trop en mettre au niveau de l'interface. Et le deuxième point un peu bizarre, c'est au niveau de ce rapport filial qui est dans le stéréotype constant. On aurait aimé en sortir, on aurait aimé, à la limite au début, ça gêne pas, Kratos, évidemment, on va pas demander à Kratos de sortir de son identité de mâle super alpha, ce serait complètement débile, c'est un peu son identité, donc on va pas non plus en sortir. Par contre, faire évoluer un peu cette relation père-fils d'une manière intéressante, elle n'évolue pas, on sait dès le début, il n'y a pas de surprise dans ce truc. Oui, alors il l'aime, mais il n'ose pas lui dire.
Il a deux doigts de le réconforter, puis il ne le fait pas.
Sur les pectoraux, il y a un cœur qui bat, mais l'autre aura jamais.
C'est un peu gros. Ça fonctionne, mais c'est un peu gros.
C'est un peu soporifique. C'est dommage, encore une fois, d'avoir tellement de choses, je trouve, où on est emballé et ne pas pouvoir être emballé aussi par ça. Et je trouve que c'est un peu le truc, c'est un peu un regret, parce qu'on se dit, s'il y avait eu quelque chose de bien à ce niveau-là, s'ils n'étaient pas restés dans les stéréotypes...
T'aurais voulu quoi, en fait, une relation moins binaire, moins cliché.
J'aurais voulu être surpris.
Mais surtout, il y a moyen, quoi. Enfin, apparemment, le sidekick est plutôt utile dans le jeu.
Il suffit
qu'il y ait un petit peu d'hybridation entre narration et gameplay. Genre, au moment donné, je sais pas, j'ai pas du tout joué au jeu, donc là, je fais pas de spoil. C'est vraiment de la supputation totale. Mais si le gamin était plus là à un moment donné, Kratos, il se retrouve affaibli, donc tu le ressens d'autant plus dans le gameplay et ce genre de choses, quoi.
Oui.
Bon.
Il y a des trucs que je trouve intéressants, le fait que Kratos est un peu dépassé sur la lecture de certains messages, que son fils lui sait comprendre parce que sa mère lui a expliqué. Il y a des petits trucs quand même qui sont bien fichus.
Il y a des touches d'humour dans l'écriture qui sont bienvenues.
Même méta,
après,
parfois,
voilà, je trouve qu'il y avait autre chose à faire à ce niveau-là.
Ouais.
Surtout, voilà, de sortir de ce truc attendu. Et ben, moi, j'ai envie de vous dire qu'on va quand même en parler.
Ah.
On va Merci. Quand même en parler. On va faire un peu plus long, pas beaucoup, hein, mais un peu plus long parce que ça
j'ai
fait.
J'ai pris note pour une heure.
Voilà. Bon ben, on va faire plus court alors, parce que tu nous en as parlé, en tout cas hors émission, la semaine dernière, et ça m'a beaucoup, ça m'a rendu très très curieux. On va parler de Doki Doki Literature Club. Est-ce que tu peux battre une musique aussi énorme,
hein? Je sais pas, la semaine dernière déjà, tu m'avais dit... enfin non, c'était il y a deux semaines, on avait déjà une musique assez rigolote.
Voilà, donc Doki Doki Literature Club qui commence comme, comme un dating game.
Oui, voilà, c'est un jeu qui est sorti...
Dating
donc,
sim.
C'est un moment qui est sorti, ce dating sim, ce visual novel, il est sorti en septembre dernier, voilà, c'est l'année dernière tout de même. Donc voilà, c'est un visual novel, dating sim, comme tu le dis... Qui est classique, hein. On contrôle un héros qui va s'intégrer dans un club dans sa vie lycéenne. Alors ça commence, oh là là, je ne suis qu'un lycéen normal, c'est à la première personne, le texte s'affiche en bas et il y a des illustrations de type animé, manga qui apparaissent à l'écran.
Oh là là, super original.
C'est très original, c'est des choses qu'on a déjà vues des milliards de fois. Voilà, ça commence comme ça et donc notre héros qu'on peut nommer comme on veut, rencontre sa voisine Sayori, enfin rencontre, ils la connaissent, une amie d'enfance. Mmh. Mais voilà, Sayori, elle est un petit peu maladroite. Elle est très gentille, mais maladroite. Et elle lui dit « Ah, tu devrais rejoindre avec moi le club de littérature. » Bon, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix puisqu'on fait avancer le texte et on ne fait que lire. Hein. C'est un visual novel. Une fois arrivé au club de littérature, on rencontre les trois autres membres de ce club de littérature. Il y a Natsuki qui est une jeune femme assez petite et mignonne, mais qui en réalité cache un caractère appelée dans le milieu des otaku avertis tsundere, donc en réalité elle est je t'aime moi non plus, elle est un petit peu comment dire, elle est grinche amoureuse un petit peu, c'est à dire qu'au début elle fait non je n'ai pas fait ça parce que je t'aime, tu vois, bon, c'est un classique. On a Yuri qui est la kudere, donc la fille timide, hein, qui reste dans ses bouquins, qui lit, qui ne parle pas trop. Et on a Monika, la présidente du club, qui est la fille populaire. C'est un autre cliché, ouais. Voilà, de ce genre,
c'est
de...
on est en univers très très
on
très
est
connu
dans le cliché le plus
et
total.
Et comment ça se fait qu'à ce niveau de l'histoire, on n'a pas abandonné déjà ?
C'est au tout début, hein, ça va assez vite. Au départ, on a quelques choix, on ne sait pas trop ce qui se passe. On nous dit, bon, alors vous allez rentrer chez vous et faire des poèmes. Alors on rentre chez nous et en fait, on doit sélectionner des mots qu'on nous propose pour créer des poèmes. Le système est plutôt intéressant. Il n'y a pas de choix direct. Ce n'est pas genre, ah, je vais plutôt faire ça avec un tel ou ça avec un tel. En fait, c'est en fonction des mots qu'on va mettre dans notre poème. Ça va attirer l'attention de plus telle ou telle fille. Si on prend du mignon, ça va plutôt être Natsuki. Si on prend du tri, ça va plutôt être Yuri, mais moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et au début on se dit bon, c'est normal quand même, c'est un peu chiant, mais voilà.
Mais tu tiens aussi parce que t'as été hypé.
Ah là, on a été hypé. Alors on va rentrer dans le territoire du spoiler, ça se dévoile vraiment au bout de 2 heures de jeu. Donc si vous êtes curieux, évidemment il n'y a pas que ça dans Doki Doki Literature Club, il y a autre chose d'assez gros, on va dire. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'arrêter le podcast et d'aller essayer maintenant, c'est gratuit, profitez-en, c'est sur PC. Pour les autres, c'est parti. Alors au bout de 2 heures de jeu, en fait, même avant, hein, avant, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des petits signes qui ne trompent pas, des poèmes qu'on nous rend à lire laisse penser que ouais, c'est bizarre. C'est-à-dire que il y a des sous-textes vraiment sombres derrière les textes qu'on nous rend. La petite, justement, la jeune femme qui a l'air toute mignonne, machin, elle on sent qu'elle parle de son père qui n'est pas du tout attentive et voilà et c'est limite méchant ou alors enfin il y a vraiment des sous-textes très très sombres, même philosophiquement sombres. Et en fait au bout de 2 heures de jeu on se rend compte que on est sur un jeu d'horreur psychologique, c'est-à-dire que le jeu d'un seul coup, enfin en 2 étapes très très spécifiques, se mettent d'un seul coup à faire un demi-tour total sur le genre que c'est et coup sur coup en fait notre voisine amie d'enfance un peu maladroite nous apprend qu'elle fait une grosse dépression depuis très longtemps et 30 minutes plus tard elle se suicide, voilà. Et fin du jeu, d'accord. Et le jeu s'arrête là et le jeu s'arrête là.
Ah oui, ça c'est du spoil.
Non mais je vous le dis, c'est pour ça que j'ai dit aux gens d'arrêter si vous, là vous êtes déjà trop loin donc, mais il y a encore à bouffer donc allez-y, il est temps d'aller sur le jeu, hein, il est encore temps. Mais voilà, on se tape quand même 2 heures de jeu classique, de VN classique gnangnan avec des clichés. Voilà, il y a des gens qui aiment ça et je juge pas, hein, vous avez le droit d'aimer les VN de ce type là, de type harem, hein, comme on dit, s'il y a un homme, plusieurs femmes, ça existe dans l'autre sens aussi, mais là c'est vraiment en type harem. Mais voilà, on arrive au bout de 2 heures de jeu et notre amie Sayori, eh ben, elle est au bout d'une corde et c'est un problème parce que c'est le héros s'en veut, le héros, et là c'est fin et on retourne au menu principal. Sauf que au menu principal, eh bien, le menu principal est glitché. Là où il y avait l'image de Sayori, c'est tout glitché. Il y a plus Sayori. Il y a un énorme amas de sprites et de machin. Et nouvelle partie est glitchée aussi. Voilà. Donc on fait une nouvelle partie.
Il
y a un truc chelou qui se passe. On lance une nouvelle partie. Et ça redémarre une partie. Et je vois cette fille arrogante. Alors que c'était pas ça au début. C'est genre oui, c'est mon ami d'enfance qui s'approche. Et là c'est il y a encore cette fille relou qui s'approche. C'est terrible et tout. Et en fait il y a un glitch qui s'approche et ça redémarre. Enfin, voilà, donc le jeu part en mode full glitch, full bug, genre il y a quelque chose qui va pas dans le jeu. Évidemment tout ça est contrôlé, tout ça est scénarisé, ça a tout été pensé par le développeur du jeu et on redémarre une partie dans un univers où Sayori n'existe pas tout simplement et où on se dit qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a une distanciation entre le protagoniste du jeu et le joueur qui se fait de plus en plus, parce qu'évidemment le protagoniste n'est pas au courant qu'il y a eu une autre partie avant, mais le joueur lui est au courant, c'est tout le principe, c'est que le quatrième mur est brisé. Et d'ailleurs c'est déjà arrivé dans d'autres visual novels, hein, qu'on brise cette barrière là et là je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo on va de plus en plus dans la folie.
Finalement le but n'est pas de rentrer dans le vrai spoil, mais pour que les auditeurs comprennent bien, j'ai eu une discussion avec Corentin où il m'a dit ouais je veux en parler mais je veux pas spoiler. Le fait est qu'on ne pouvait pas parler de Doki Doki Literature Club si on ne parlait pas de ces éléments-là, parce que finalement, ce n'est pas un visual novel, c'est d'une part un jeu d'horreur psychologique.
Si pour le coup, c'est un visual novel, mais c'est pas un visual novel harem, c'est pas un dating sim, voilà.
C'est pas un dating sim, on est dans l'horreur psychologique et on est dans ces systèmes méta qui jouent avec la structure même du jeu.
Et c'est ça qui est sympa, parce que toute l'horreur de ce jeu-là n'est pas basée sur le gore, comme on peut l'avoir dans beaucoup de jeux d'horreur, mais sur ce qui est perturbant, sur est-ce que le jeu est vraiment en train de lire dans mes pensées, est-ce que... Alors, bien sûr que non, tout est scripté. Mais voilà, il y a vraiment une notion de briser le quatrième mur, parler de sujets terribles, enfin comme du suicide, ce genre de choses qui sont perturbantes, oui.
C'est intéressant, mais alors justement, ce côté surprenant du jeu qui se transforme, est-ce que quand tu achètes le jeu sans savoir...
On l'achète pas, il est gratuit.
Ah, il est gratuit, mais genre, est-ce que t'es prévenu ou pas du tout ?
Alors oui, quand même.
T'as quand même une notion
que... Il y a un message au tout début du jeu.
Attention.
Ce jeu n'est pas pour les gens au cœur fragile. Enfin, attention.
Parce que j'imagine les gens qui l'ont découvert en jouant...
Alors, rien ne laisse penser. Alors, à part ce seul message au début du jeu, rien ne laisse penser que c'est un jeu d'horreur psychologique. Mais tout le reste, c'est-à-dire que tout ce qui est promotionnel, le site internet, la page Steam, tout est présenté comme un visual novel de harem normal, classique. Voilà. Mais il y a quand même ce message genre, attention, si vous êtes perturbé. Alors, j'en avais entendu parler, j'ai pas été spoilé, mais...
Tu savais qu'il y avait un truc derrière.
On m'avait laissé entendre qu'il y avait un truc derrière ce jeu, donc j'y suis allé en me doutant de ce qui allait se passer. Quand même, je me doutais qu'on allait partir sur
quelque chose
un peu plus horrifique, parce que en plus c'est le VN, c'est déjà arrivé dans le VN qu'on ait ce genre de choses-là. Alors j'ai plus le nom en tête, j'ai pas réussi à retrouver le nom de ce visual novel, mais je sais que dans un autre visual novel de type harem du même genre comme ça, il y a une route avec une des petites amies qui se rend compte que le joueur a déjà séduit d'autres filles dans le jeu, dans d'autres parties, et ça finit mal. Elle te tue et elle s'adresse à toi, le joueur. Dis donc toi, je sais que tu m'as trompé avec d'autres filles. Et elle te tue. Et voilà, c'est pas la première fois que le visual novel en lui-même arrive à tutoyer un petit peu la notion même de jeu, et surtout même dans la façon dont on joue au jeu. Donc évidemment c'est un visual novel, donc on fait que passer du texte, et c'est extrêmement bien écrit par ailleurs, hein, c'est important dans ce genre de jeu là d'être bien écrit, mais on va aussi vous demander d'aller faire fouiller dans les fichiers de jeu pour changer des choses, et ça va changer des choses dans l'histoire. C'est super intéressant. On est dans quelque chose d'assez intéressant et qui tutoie un petit peu qu'est-ce que le jeu vidéo ouais, quel est le rapport entre le joueur et le jeu vidéo ? Ce que des jeux comme Undertale ont déjà fait, d'ailleurs, hein, on en a déjà discuté. Ouais. Voilà, quand le jeu vous dit, bah peut-être que si vous tuez pas les ennemis comme dans un RPG classique, ça peut être intéressant pour vous aussi. Là, on est là-dedans. Et d'ailleurs, dans une interview, donc le créateur principal du jeu qui s'appelle Dan Salvato, il expliquait finalement que son envie de créer un tel jeu était issue de la relation en Je t'aime moi non plus qu'il avait avec les animés. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup la qualité des animés, la qualité des histoires, mais ça l'énervait aussi d'avoir ces clichés de personnages et tout ça. Et il avait un peu envie de les torturer lui-même finalement. Donc ce jeu, c'est un peu à la fois une réflexion sur comment on peut faire un jeu tout en brisant le quatrième mur, tout ça. Et aussi, une critique sur la culture animée, la culture manga, et je trouve ça très intéressant parce que finalement derrière ce qui paraît être un jeu tout ce qu'il y a de plus superficiel qui relève d'une vacuité hallucinante, on a un jeu qui est, alors c'est pas une révolution non plus, hein, je veux dire, on reste dans du boue, agro, je te fais des bugs sur ton écran, mais bon, j'aime bien la démarche artistique est intéressante. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai épargné une bonne partie de ce qui se passe dans le jeu, évidemment, notamment il y a quand même
on n'a pas vraiment spoilé,
voilà. Je vous ai spoilé, c'est dommage que la surprise de en fait je joue à un jeu d'horreur est cool, mais après bon, on peut pas non plus, voilà, si je vous en ai pas parlé comme ça, vous n'y aurez pas joué de toute manière,
c'est ça.
Donc voilà, je vous encourage à aller regarder Doki Doki Literature Club, c'est sur Windows, Mac et Linux, voilà,
et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Eh ben c'est fini, on a fait plus long mais pas tant, ça va.
Ça va,
c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick ?
Alors moi je suis team DC Comics fondamentalement, c'est-à-dire que c'est pas facile tous les jours.
Ouais.
Alors c'est-à-dire que là, quand le nouveau Marvel...
T'es team Zack Snyder quoi.
Justement, au moment où le nouveau Avengers sort en salle, moi je revois Justice League. Et c'est dur. Et c'est difficile parce que, justement, tu parles de Snyder, c'est intéressant parce que moi, je regrette Batman v Superman. Je regrette les partis pris qu'avait Snyder, il y avait beaucoup de choses critiquables. Mais je pense qu'il avait une vision quand même. Il avait une vision de Superman, des super-héros. Il avait un parti pris qui reste intéressant. Et quand on voit Justice League, on connaît les problèmes, le développement de L du film avec Snyder qui a eu des problèmes un drame familial, qui a quitté la production. Whedon qui est arrivé qui avait signé les Avengers, donc c'est une hérésie totale, qui lui reprend les commandes du projet. Pour moi, c'était quand même une hérésie de prendre le type qui avait bossé dans l'écurie d'en face pour ramener. Et du coup, on se retrouve avec un Justice League qui est fade, qui est presque un cas d'école. Hein. C'est un film qui n'ose rien faire, qui est complètement stressé d'exister, qui est d'une fadeur assez absolue. Et moi, je regrette Snyder, je regrette vraiment je pense qu'il avait vraiment une vision intéressante. Donc c'est difficile, je pense qu'on ne voit pas trop où va aller le DC Universe au cinéma dans l'avenir. Je crois qu'il y a un Wonder Woman 2 qui est annoncé, qui se passerait dans les années 80. Donc ça c'est la dernière rumeur qui a cours, moi qui me redonne un peu espoir. Mais ouais, c'est difficile Justice League. C'est vrai que c'est un film qui est frustrant, parce que pour moi c'est un de ces films où on pressent presque le bon film qui aurait pu exister derrière. Ouais. On sent la volonté qu'avait Snyder de poser plein de questions sur
J'ai jamais réussi à lire la Justice League. Quoi.
Ah mais c'est, non, c'est bien DC c'est la base. Mais voilà,
il y a des Batman qui sont assez incroyables. Mais si
la rencontre Batman Superman, elle est fascinante parce qu'on a un personnage qui est un dieu vivant, l'autre qui est un être humain qui se lisse à son niveau.
D'accord.
Ça pose plein de questions, mais voilà, quand on voit le résultat de Justice League, qui est d'une fadeur assez incroyable. C'est dommage, encore une fois, on se dit qu'on est passé à côté d'un quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Donc,
Corentin.
Alors moi, en fait, par moment, quand j'ai un peu de temps, je vais sur un site internet. C'est assez intéressant à regarder parce que, en fait, contre un abonnement, vous avez le droit à regarder autant de séries que vous voulez dans le catalogue. Et je trouve ça assez bien pensé, c'est pratique.
Comment ça s'appelle, troll.
Bref, troll. Sur ce site internet, dont on n'a pas le droit de prononcer le nom apparemment, on a récemment, donc c'est sorti, je sais plus quand c'est sorti, tant pis, j'aurais dû me... Si, le 20 avril, Agretsuko. Alors Agretsuko, qui est donc Agretsuko ? Eh bien Agretsuko est une mascotte de Sanrio. Vous connaissez Sanrio, c'est Hello Kitty, ces petites mascottes toutes mignonnes, toutes sympas. Et donc cette mascotte de Sanrio est apparue dans des shorts, des petits shorts depuis 2016, c'est vraiment très court, c'est genre 30 secondes. Agretsuko, c'est un pandarou. Elle a 25 ans, elle est célibataire, elle travaille dans une grande entreprise japonaise et elle est saoulée par son boulot. Mais elle est saoulée de ouf. Son petit truc à elle, c'est d'aller au karaoké pour se défouler, pour dire à quel point sa vie c'est de la merde, son boulot c'est de la merde, elle déteste ses chefs, elle déteste tout le monde, voilà. Et c'était transformé en série Netflix. Là, ça arrivait en avril dernier. Et c'est super. C'est super bien. C'est une énorme critique déguisée du monde du travail japonais. Ça parle donc du burn-out, ça parle du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, ça parle de la pression sociale à se marier quand on est au Japon, à fonder une famille, ou alors à cause du travail, d'abandonner son travail pour se caser avec un riche finalement, parce que c'est plus facile comme ça. C'est fait donc avec des personnages tout mignons, chaque personnage est un animal différent, mais c'est moderne dans le sens où ils bitchent entre eux sur les réseaux. Enfin, il y a un personnage, Fennec, qui est un de mes personnages préférés, qui est là en train de bitcher sur notre collègue. Regarde, elle fait toujours la même chose sur Instagram, elle monte ses cuisses, elle fait machin. C'est super amusant. Et on voit donc comment ce personnage évolue, se cherche en fait en mode tiens, je veux être la meilleure au travail, ou alors tiens, est-ce que je veux pas fonder une famille, est-ce que je veux me trouver quelqu'un, est-ce que finalement je veux pas être en paix avec moi-même au final. Tout ça à travers des petites scènes avec des gags super cool, c'est super bien écrit. La VF, si vous êtes allergique au japonais, est très bien. Donc n'hésitez pas à le regarder en VF. Évidemment, il y a un moment où elle fait du hard rock. Parce qu'elle fait du death metal, pardon, elle fait pas du hard rock, elle fait du death metal, donc c'est du blaaaaaa comme ça dans le micro. Évidemment, là, c'est pas doublé, hein, la pauvre doubleuse, elle s'est pas cassé la voix. Mais n'hésitez pas à y aller, en plus, c'est assez court, c'est genre une dizaine d'épisodes, 15 minutes chacun, ça se regarde très très vite. Je vous recommande Agretsuko, c'est sur Netflix. Oh, je l'ai dit, pardon. Ah, là, non.
Tu l'avais déjà dit avant, t'avais dit. Ouais. C'est pas grave. Moi, pour ma part, je recommanderais un livre au titre peut-être un peu long, mais passionnant. C'est Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation. C'est un livre paru au seuil de Pablo Jensen. Pablo Jensen, qui est un physicien, donc un chercheur en physique, hein, mais qui est un peu dérivé, qui s'est intéressé à la sociologie, à la modélisation de la société et tout ça.
Transdisciplinaire, alors.
Transdisciplinaire. Et en fait, il a essayé de comprendre pourquoi, finalement, ces équations qui définissent si bien le monde, quand on parle de planètes, d'objets physiques et de choses comme ça, bah, quand on essaie de faire des modèles et quand on essaie de modéliser notre société, bah, ça ne marche jamais, malgré ce qu'on ne cesse de nous dire. C'est-à-dire qu'on ne cesse de nous parler d'indicateurs, de PIB, de croissance, de choses comme ça. On a des économistes qui, en fonction d'un nombre de paramètres absolument incroyables, vont nous prévoir la croissance de l'année prochaine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, la croissance ? C'est quoi qu'est-ce qui est derrière tout ça ? Et en fait, il montre qu'il y a, des mythes comme ça sur les données, sur les chiffres, sur les indicateurs quantitatif qui finalement, on s'en rend compte, gouverne beaucoup des décisions politiques. Il y a énormément de choses comme ça qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucune consistance scientifique. Et après, il y a aussi toute cette réflexion sur l'utilisation des big data par plein d'intelligence artificielle. On est en train de nous dire qu'on va pouvoir faire de l'informatique prédictive avec tous les big data et des réseaux de neurones.
Mais
est-ce que scientifiquement, mathématiquement, est-ce que ça a un sens ? Eh ben, c'est pas sûr. En tout cas, le livre est passionnant. Il faut être concentré pour le lire, mais il est très accessible et je conseille vraiment. Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ? C'est un livre un peu long. Voilà. On a fait. Oh là, je viens de taper sur la table. S'il faut pas
c'est
le faire.
Pas grave.
On a fait 1h20. Ce n'est pas le record de Silence on joue, mais on va s'arrêter là quand même. Merci à tous les deux. Merci encore une fois au Croissant de nous héberger. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine ici même. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.